RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On va quitter l'espace politique pour voir comment le champ artistique s'est aussi emparé de la question de la participation de tous, hein, pour donner à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer sur scène, dans la rue, dans les tiers-lieux. Le terrain artistique, ça se voit, hein, s'ouvre à tous. C'est ce qu'on appelle aussi la culture populaire. On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez le sentiment que l'art est accessible à tous? Connaissez-vous d'ailleurs des associations, des initiatives qui permettent de rendre un peu plus accessible? Est-ce que c'est une manière aussi, et ça vous allez nous le dire finalement, de vaincre le populisme? C'est une grande phrase, mais vous avez de quoi discuter avec nous au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera également d'éducation, en l'occurrence éducation artistique et culturelle, qui joue un rôle fondamental dans le développement des enfants, leur offrant des outils précieux pour naviguer dans le monde avec confiance, sensibilité, esprit critique. On verra ça à 10h50 avec Marion Denis du think tank Vers le Haut. Mais en attendant, je vous présente nos deux invités jusqu'à 11h. Thierry Blondeau, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous de nous avoir rejoints dans cette émission. Merci à l'équipe de RCF Alsace à Strasbourg qui vous accueille en studio. Vous êtes compositeur de musique, tout simplement. Thierry Blondeau, c'est déjà énorme. On est ravis de vous entendre. Comment on devient compositeur?
Eh bien, je vais répondre par peut-être une chose assez évidente. On devient compositeur ou compositrice, d'ailleurs, en composant. En pratiquant la musique, en écoutant le monde et en donnant une version personnelle. Et je reviendrai bien sur cet aspect personnel d'ailleurs, sans doute par la suite, vu le sujet qu'on doit aborder. Une vision, une écoute personnelle du monde qui nous entoure et voilà. Passer par le filtre de l'individu. Voilà.
Et ben ça, on va en discuter avec grand plaisir. Thierry Blondeau, merci beaucoup. Avec nous également Solène Pradapaz, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup Solène de nous accompagner. Vous êtes animatrice et au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle la Fabrique du Revermont, qui se trouve pas très loin de Bourg-en-Bresse, à Simandre-sur-Suran, pour être très précis. Qu'est-ce que c'est cette Fabrique du Revermont?
Bonjour à tous. Oui, la Fabrique du Revermont, c'est un tiers-lieu socioculturel. On est basé donc sur le territoire du Revermont, qui est un territoire dans l'Ain, comme vous l'avez dit, près de Bourg-en-Bresse. Il est porté par l'association du MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, depuis plus de 7 ans. Et le MRJC, c'est une asso d'éducation populaire qui est présente un peu partout en France. Elle est composée de jeunes ruraux entre 13 et 30 ans qui souhaitent s'engager pour transformer la société comme ils le peuvent et le veulent. Et donc la fabrique que nous on porte ici à Simandre, elle essaie de s'adapter en fait à la population du Revermont et à ses besoins dans son offre de services et d'activités. Et donc ça au quotidien, ça se traduit par plein d'activités différentes, plein d'actions qui sont portées par les habitants et habitantes du coin, notamment avec un gros volet culturel dont on pourra peut-être parler plus en détail après.
Ah oui, parce que c'est pour ça que vous êtes avec nous dans cette émission, Solène. Thierry, je me retourne vers vous. Donc voilà, vous l'avez dit, vous avez étudié, bien sûr, pour apprendre la musique, pour devenir compositeur. Vous êtes parti à Berlin, je crois, avant de revenir en France. Ça demande des études denses, on va dire, au niveau de l'apprentissage.
Alors, il n'y a pas qu'un chemin pour aboutir à la création musicale. Je pense qu'il y en a une infinité. Je dirais presque autant que de parcours personnels. Et effectivement, j'ai étudié, mais je composais avant d'étudier. D'autres ont étudié avant de composer. C'est difficile je n'aurais pas l'ambition de dresser le portrait d'un idéal pour cet axe. Et je dirais que même une partie de mon travail par ailleurs de pédagogue, c'est précisément de donner accès à la création musicale, qui paraît être précisément une montagne par rapport à je sais pas, au fait d'écrire ses mémoires ou de tenir un cahier personnel ou bien de peindre ou bien voilà qui semble être d'un accès plus immédiat, eh bien une partie des préoccupations d'un certain nombre de pédagogues, musiciens ou musiciennes était précisément de rendre plus facile l'accès à la création musicale. J'aurais peut-être l'occasion de l'évoquer ici aussi. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas un parcours possible. Je crois que si on a envie de créer, et il y a des individus qui ont envie de créer et de faire entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu et qui n'existe pas encore, eh bien, allez-y. C'est difficile. C'est sûr, c'est difficile comme de peindre ou d'écrire, mais c'est possible. C'est juste, je pense qu'il y a vraiment une énergie au départ, une volonté de aussi de faire partager ce qui vous habite aussi. Ça, c'est important. Je pense que on a tous, dans un domaine ou l'autre, dans d'une manière utopique, on porte tous des bébés sonores ou picturaux ou autres. Voilà. Et c'est ça qui est une démarche au départ qui est là, à mon avis, le moteur. Tout le reste suit. Je pense les études, bien sûr. Alors, on y reviendra peut-être sur la question de politique, du populisme, etc. C'est la diffusion des œuvres est évidemment un facteur important. Donc ça, je pense, et de toute époque. Je pense que non pas qu'on répète à chaque fois, et c'est à chaque fois différent, mais en même temps, il y a quand même des conflits entre le pouvoir et l'art qui est un conflit, je pense, pas toujours conflictuel, mais très souvent quand même conflictuel, entre autres quand on va vers des politiques autoritaires. Il est clair que, curieusement, et en fait c'est pas curieux du tout, l'expression personnelle devient un problème pour la dictature.
Solène Pradapas, vous, avec ce que vous observez au sein du tiers-lieu et de la fabrique du Revermont, est-ce que ça fait écho, vous, à ce que vous vivez, ce que nous dit Thierry Blondeau?
Oui, absolument. Absolument, on s'en rend compte finalement que dans tout ce qui relève de la culture et de l'artistique, il a été défini ce qui est beau, ce qui plaît, ce qu'on doit montrer, ce qu'on ne doit pas montrer. Et finalement, ça nous a énormément encadrés. Déjà en grandissant, nous, on travaille beaucoup avec les enfants, et après plus généralement avec les personnes de moins de 30 ans, mais on voit à quel point, en grandissant, on s'est énormément encadré dans ce schéma de ce qu'on doit montrer aux autres et artistiquement, du coup, ce qui est légitime d'être présenté sur scène, ce qui est légitime d'être écouté et ce qui ne l'est pas. Et finalement, la culture populaire, elle essaye de combattre ça. Elle combat l'élitisme de la culture, elle combat le fait que la culture, elle est légitime de partout. Et en fait, elle est en nous, on la porte.
Vous avez dit, il a été défini ce qui est beau. Qui a défini ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très subjectif.
Oui, tout à fait, mais c'est aussi c'est culturel. Ça relève des différentes cultures, que ça soit d'un point de vue ethnique, religieux, de nos nationalités, de où est-ce qu'on grandit, avec qui, de ce qui nous influe. Donc finalement, on a tous et toute notre définition du beau, mais après, il y a aussi celle de la société, celle que l'on voit en grandissant sur les écrans, celle que l'on écoute. On a une diversité, je pense, de cultures et d'œuvres donc culturelles auxquelles on n'a pas forcément accès par défaut et qu'il faut aller essayer de gratter, de pousser, de chercher à travers du coup des initiatives de culture populaire dont on parlera tout à l'heure.
Thierry Blondeau, vous, qu'est-ce que c'est l'art pour vous? Est-ce que votre vision de l'art a évolué entre peut-être le moment où vous étiez un peu plus jeune, que vous sentiez cette appétence pour la musique, et maintenant avec ce que vous faites?
Oui, je crois que c'est le parcours de chacun d'entre nous. On évolue forcément avec la pratique, avec le temps, avec l'âge. Je trouve très intéressant ce que vient de dire Solène, notamment sur le fait qu'on définit le beau. Je vais donner un exemple. Alors, je vais répondre à votre question peut-être après.
Oui.
Excusez-moi,
mais
je voulais revenir
à
ce qui a été dit. Je prendrai l'exemple de la Tour Eiffel et du Centre Pompidou. Qui se pose encore la question de savoir si la Tour Eiffel est belle? Je crois à peu près personne. Et pour avoir vécu la construction du centre Pompidou, la question s'est quand même beaucoup posée de savoir s'il était beau ou pas.
Elle se pose encore.
Est-ce que
Oui.
elle se pose encore d'ailleurs? Je crois avoir entendu que quelqu'un imaginait encore pouvoir éventuellement le faire, enfin voilà, le supprimer. Ce qui est voilà, voilà, on est plutôt, enfin je pense en tant qu'artiste plutôt dans le sens de la construction que de la destruction. Et je pense que personne ne pense à détruire la Tour Eiffel et personne de sensé, je pense, ne pense à détruire le centre Pompidou. Et pourtant, la question s'est posée, ou ne se pose pas précisément. La tour Eiffel n'est ni belle ni pas belle. Elle est là et on s'y est habitué. Et l'habitude, ben, ça fait aussi que quand quelqu'un présente une expression, alors là, je vais plutôt arriver à votre question, une expression personnelle qui va être une expression qui n'a jamais été entendue ou jamais vue. Eh bien, on a beaucoup plus de mal à l'aborder parce que tout simplement, on n'a pas l'habitude de la voir. Je prendrai l'exemple des colonnes de Buren aussi à Paris. Là, je suis très parisien, je suis désolé, même si je suis à Strasbourg, je pourrais prendre des exemples plus strasbourgeois, mais me vient aussi ça. Quand on voit les gamins jouer sur les colonnes de Buren, ça fait quand même très plaisir, en sachant toute la polémique qu'il a pu y avoir derrière l'installation de ces colonnes. Et que tout simplement elles sont là, et que la question du beau ou pas, finalement, est-ce qu'elle se pose en ces termes? Alors sur l'art, l'art c'est un concept relativement récent en fait. C'est pas né, c'est un peu né de la dernière pluie. C'est un concept finalement qui vient surtout du 19e siècle. Avant, la question de l'art se posait assez peu. Hein. On
Oui, parce qu'il y
créait,
avait des
mais on.
règles et des normes surtout autour de l'art.
Alors, c'est nous qui les avons définis a posteriori ces règles. Je crois que c'est une perspective. Au moment où vous créez ces règles-là, c'est vous qui les définissez et elles évoluent. Justement, c'est ça la question de l'art et de l'art contemporain, par exemple, c'est que ces règles-là évoluent à chaque individu qui la pratique, y compris dans les traditions orales, puisque par exemple, on arrive maintenant. Je donnais un autre exemple des orchestres de percussion indonésiens. Le gamelan, ce qu'on appelle le gamelan. On a des enregistrements du début du XXe siècle et ces enregistrements ne ressemblent en partie à ce qui se fait aujourd'hui, mais on se rend compte que les pratiques orales qui se sont diffusées de génération en génération ont aussi énormément évolué. Donc, par exemple, l'idée aussi que l'art traditionnel serait resté tel qu'il est, elle est relativement mise à mal par ces expériences, parce que tout simplement. Bah, les individus sont différents les uns des autres. Nous ne sommes pas identiques à nos parents et nos enfants ne seront pas identiques à nous-mêmes. Et c'est très bien comme ça.
Solène, alors on n'est pas dans un débat pour ou contre l'art, où l'art est-il beau et y a-t-il du beau dans l'art, hein, c'est pas la question, mais ça nous permet quand même de d'amener notre sujet, à savoir la culture populaire, parce que si on parle de culture populaire, ça veut dire que l'art de toute façon doit être accessible à tous et qu'il fallait arrêter d'être dans une forme d'élitisme. Vous, Solène Pradapas, est-ce que vous avez le sentiment en 2024 que l'art est encore quelque chose d'élitiste?
C'est une bonne question. C'est intéressant parce qu'on a parlé enfin, on est en train de parler de culture populaire, de pop culture, et en même temps, on peut tout à fait parler de culture au pluriel, populaire, et de voir un petit peu, parce que selon moi, la différence entre les deux, c'est que la culture populaire, c'est une question de majorité, en effet, d'opposition à l'élitisme. Alors que les cultures populaires, elles intègrent aussi les identités sociales, les représentations collectives qu'on peut avoir aussi au niveau culturel. Et donc, par rapport à avoir accès à la culture et à l'art aujourd'hui, selon moi, oui et non. C'est-à-dire que si on étend notre définition de la culture et qu'on la trouve dans des choses plus ou moins anodines, en se baladant dans un village, des choses comme ça, alors oui, elle est partout et on y a accès. Mais tout ce qui est performance artistique, et on a tendance à utiliser culture et artistique comme deux synonymes, donc il faudrait qu'on fasse attention. Mais là-dessus, non, non, elle est pas, il y a pas réellement d'égalité face
Oui.
à la performance artistique. On en est encore loin. Cependant, c'est en train de se démocratiser. On est en train de démystifier un petit peu les processus de composition, de création. On essaye d'intégrer au quotidien de plus en plus de personnes, le public notamment, mais aussi des personnes amatrices, des personnes qui n'ont pas par défaut un accès à la culture très simple, très facilité. Nous, on agit énormément en milieu rural, intégralement en milieu rural, et donc on se rend compte que rien que d'un point de vue géographique, avoir accès à la création, avoir accès à la participation aux œuvres culturelles, elle est extrême. Enfin, y a des obstacles. Rien que par rapport à la mobilité, on travaille avec des jeunes. Les jeunes, s'ils n'ont pas le permis, s'il n'y a pas d'accès à des transports publics pour pouvoir y accéder, c'est un réel obstacle à la culture et à la participation, et donc au respect des droits culturels.
Il est 10h15 exactement dans Je pense donc que j'agis, vous l'entendez ce matin, on parle de culture populaire, on parle de l'art également. Est-ce que vous avez le sentiment que l'art est accessible à tous? Est-ce que vous connaissez des associations ou des initiatives, hein, comme celles qu'on présente ce matin, qui permettent justement de rendre accessible l'art? Vous réagissez en nous appelant au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou par mail à direct@rcf.fr. On va écouter de la musique. Pas n'importe quelle musique, évidemment. Thierry Blondeau, vous êtes compositeur de musique, vous avez déjà sorti des disques. Alors, j'ai sélectionné une musique que vous allez nous présenter, peut-être. C'est, alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom. Lieu 1, Tempis Pezzati 2. Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, tout à fait. Alors, bah, je parlais du gamelan tout à l'heure. L'influence des percussions balinaises sur cette pièce, elle est importante. Tempis Pezzati, bah, ça fait une référence à des œuvres de la Renaissance de Giovanni Gabrielli, qui disait les choris pezzati, qui à l'époque on mettait pas les musiciens les uns à côté des autres, on faisait différents groupes de musiciens qui étaient répartis dans l'espace. Et là, les tempi spezzati, bah, c'est pas les chœurs qui sont répartis dans l'espace, enfin ils sont aussi dans cette pièce-là. Y a trois trios en fait qui sont répartis autour du public et ils jouent tous à des vitesses différentes. Voilà. Donc ils partent d'un temps identique et après ils se décalent petit à petit. Voilà.
Donc on va écouter. Petite précision peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce type de musique. C'est de la musique contemporaine, Thierry Blondeau. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme ça?
Bah, de 2005, elle est presque contemporaine, ouais.
Eh ben, on écoute, c'est parti. Voilà, Thierry Blondeau, comment vous l'avez composé cette œuvre? Est-ce que vous vous souvenez un peu des étapes?
Oui, tout à fait. Au départ, c'est une pièce pour guitare seule qui est au départ. Donc la guitare est assez centrale. Donc le timbre aussi, la couleur de la corde pincée est importante. Et puis il y a effectivement une ligne mélodique qui sous-tend ça, mais qui est complètement noyée dans ces espaces contradictoires. Il faut savoir au disque, c'est un petit peu plus difficile à en rendre compte, mais quand on est dans la salle, vous êtes assis au milieu, vous avez un groupe de musiciens qui joue à une vitesse, vous avez de l'autre côté de la pièce un autre groupe de musiciens qui joue à une autre vitesse.
Oui.
Et donc on perçoit évidemment ces paradoxes. C'était l'idée de départ aussi.
Oui,
c'était tempi spezzati, ça veut dire les temps séparés, éclatés.
Et c'est très visuel également, je trouve, à écouter. Je trouve qu'on visualise assez facilement. Solène Pradapas, donc voilà, on entendait une musique un peu plus contemporaine. Comment vous, au sein de la fabrique de Revermont, peut-être vous choisissez ces moments culturels, ces moments artistiques? Est-ce que ça nécessite pour vous, bien sûr, de la veille pour des artistes? Est-ce que ce sont aux visiteurs, finalement, de choisir, ou aux membres de la fabrique de choisir leurs artistes?
Oui, tout à fait. On a plusieurs temps forts culturels au cœur de la fabrique pendant l'année, mais le principal, c'est quand même le festival des dimanches de la fabrique qui a lieu pendant l'été. Et en fait, quand on parle de culture pour tous, on entend aussi qu'il faut parler de culture par tous.
Oui.
Et donc, cette année, on a décidé de développer un processus assez inédit sur l'organisation de notre programmation culturelle pour ce festival, qui aura lieu donc, comme c'est les dimanches de la fabrique, les 4 dimanches de juillet et le premier dimanche d'août. Et l'idée était vraiment de pouvoir permettre aux habitants et habitantes du Revermont de choisir en fait les œuvres auxquelles elles allaient pouvoir assister pendant le festival, et même pourquoi pas participer. Et donc, pendant l'automne de 2023 et l'hiver, jusqu'en début d'année, on a reçu plein de propositions de la part de ces habitants et habitantes de troupes, de théâtres, de groupes de musique, de clowns, de circassiens, circassiennes, de conférenciers, conférencières qui les intéressaient, dont ils faisaient partie parfois, ou dont ils avaient entendu parler, qui voulaient faire découvrir au reste du territoire. Et donc, on a reçu toutes ces propositions, on les a répertoriées, puis on les a proposées, on les a soumises au vote, en fait, de manière complètement démocratique. Et donc, pendant 2 mois, ce sondage, il est resté ouvert, et on a reçu les votes. Chaque personne pouvait choisir 8 représentations, 8 performances artistiques qui lui plaisaient le plus. Et c'est un sondage ouvert aux personnes de tout âge, qu'elles soient issues du territoire ou non d'ailleurs, mais le fait qu'elles reçoivent le sondage et qu'elles ont un premier lien avec la fabrique d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est ainsi que s'est créée la programmation. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 œuvres par dimanche de la fabrique. Ça passe d'un spectacle de cirque sur mobylette à un groupe de musique kabyle, en passant par des animations jeunesse et également du clown, un concert de rap. Enfin, on a une énorme diversité dans la proposition culturelle, et on est heureux et heureuse de témoigner que ça, c'est vraiment une proposition de la part des locaux, et que finalement ce festival, il leur ressemblera et qu'il est aussi fait pour eux. Et notamment, ils participent au-delà de la programmation aussi dans l'organisation du festival, puisqu'il est presque intégralement mené par des bénévoles. Donc, c'est extrêmement participatif comme performance.
Nous sommes avec Solène Pradapas, animatrice de la fabrique du Revermont. C'est un tiers-lieu, notamment culturel, qui se trouve à Simandre-sur-Suran, pas très loin de Bourg-en-Bresse. Et puis Thierry Blondeau, compositeur de musique actuellement à Strasbourg.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Catherine nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Melchior. Bien merci pour cette émission extrêmement intéressante. Et je voulais apporter un témoignage en 2 parties. La première partie, c'est que j'ai créé une association d'art dans mon village de 400 habitants quand j'y suis arrivée il y a 5 ans. Et c'était au moment du Covid. Et donc, je pensais que l'intergénérationnel, ce serait bien, que les jeunes seraient un peu moins désœuvrés, etc. Il est venu quelques jeunes, l'association a bien fonctionné, et puis quand le confinement a été levé, les salles de sport ouvertes, eh bien les jeunes de mon association sont partis vers les associations sportives. Et le deuxième volet, c'est que j'ai été professeur de français et j'ai quitté cette fonction par dépit, parce que je n'avais que 4h30 d'enseignement du français. Et quel est le lien avec la culture ? Bien, en fait, Moi, quand j'étais enfant, enfin collégienne, j'avais 8 heures d'enseignement du français. Et 4h30 d'enseignement du français, quand vous comptez qu'il y a 30 minutes effectives dans un cours, ça réduit vraiment l'enseignement du français à peau de chagrin. C'est très frustrant. Il y a des professeurs qui ne le ressentent pas comme ça, bien sûr. Mais moi, c'est mon cas. Je témoigne de mon cas. Et je pense que le fait d'avoir réduit l'enseignement du français, ça ne donne pas le goût de cette langue, ça ne donne pas le goût de l'apprendre. Et au contraire, on valorise tout le temps le sport, faites du sport, les Jeux Olympiques et tout ça, j'ai rien contre le sport. Mais un peu trop, hein, ça me fait penser à des choses que, bon, je veux pas revenir vers le passé, mais du pain et des jeux, on connaît, hein, enfin, je veux dire culturellement. Alors justement, le fait de ne pas connaître sa langue, de mal la parler, mal l'écrire, ça fait que on se prive de la culture.
C'est intéressant.
Ça, c'est voilà, ouais. C'était mon propos.
Eh ben, c'est une belle ouverture. Merci beaucoup, Catherine, pour votre appel. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Bondeau? Est-ce que vous êtes d'accord avec Catherine? Est-ce que il y a des domaines peut-être moins accessibles, même si toutes les portes sont ouvertes, certains domaines restent quand même peu accessibles pour peut-être des personnes qui, je vais pas dire ont moins de culture, mais qui n'ont pas été plongées, on va dire, dans le monde culturel?
Il est clair que l'école, c'est un lieu extrêmement important, et le collège, le lycée, évidemment aussi. C'est là que on forme les citoyens de demain. C'est presque une banalité de le dire, mais malheureusement, ça n'est pas si simple. Et je pense que l'expérience de cette personne est quand même assez remarquable. D'une part, elle enseigne. D'autre part, elle, en dehors de son activité d'enseignante, elle a des initiatives, entre autres dans la période Covid, qui se solde pas nécessairement par une réussite dans le post-Covid, si j'ai bien compris. J'ai envie de dire, toutefois, il faut persévérer tout de même, parce que effectivement, elle le dit très bien, on peut pas, elle a rien contre le sport, on peut pas jouer le sport contre la culture. Chez les Grecs, on participait dans le stadium, on faisait de l'athlétisme et de la musique, hein, donc je pense que ça n'est pas incompatible, le mouvement, le geste aussi, le corps. D'ailleurs, on pourra en parler par rapport aux pratiques de musique classique, où les choses, par exemple, évoluent beaucoup, ou même d'autres pratiques de musique où le corps joue un rôle plus important qu'il n'a été par le passé. Et ça, voilà, on ne joue pas forcément les choses les unes contre les autres. Je peux peut-être parler un petit peu aussi de la partie pédagogie, puisque aussi ça m'intéresse par rapport aux propos de Solène aussi, puisque je dirige le centre de formation des musiciens intervenants, et musiciennes intervenantes en Grand Est. Ouais. Voilà, le CFMI. Il faut savoir qu'il y a 9 CFMI en France, bientôt plus que 8, puisque le nôtre va peut-être fermer. Et bah, précisément, l'accès à la culture à tous, et entre autres dans l'éducation nationale, pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans l'éducation nationale en grande partie. Les CFMI, c'est aussi leur rôle. Au départ, ils ont été créés à cheval entre deux ministères, et toujours d'ailleurs, c'est le ministère de l'éducation nationale, enseignement, recherche, d'un côté, et culture, qui étaient deux ministères qui communiquaient peu par le passé. Donc ça date des années 80, hein, un petit peu avant 81 d'ailleurs. Et ces centres ont été créés précisément pour faire ce lien, et ce lien entre l'école et le territoire, les territoires, et puis aussi de faire participer et surtout de faire créer tout un chacun, de faire accéder précisément à la pratique musicale et pas seulement transmettre du savoir et de simplement mais aussi de réellement introduire les choses vers les territoires, et surtout d'être à l'écoute de ce qui vient des territoires et pas seulement être soi-même porte-parole. Voilà.
Ouais, on va en parler, ça. On va marquer une pause tout de suite. Oui. On se retrouve dans un instant, Solène et Thierry, avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la culture accessible à tous et pour tous. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc que j'agis, on parle art et culture avec Thierry Blondeau, compositeur de musique et directeur du CFMI de l'université de Strasbourg. Le CFMI, c'est le centre de formation de musiciens intervenants. Également Solène Pradapas, animatrice au sein de la fabrique du Revermont. C'est à côté de Bourg-en-Bresse, à Simandre-sur-Suran. On salue tous les habitants d'ailleurs de ce village ou de cette ville. On va accueillir Jean-Louis au 04 72 38 20 23. Jean-Louis, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais porter un témoignage en deux points.
Oui.
Le premier point, c'est que pour moi, j'ai 76 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours considéré, jusqu'à une certaine époque, que la culture, c'était une affaire d'élite. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que la culture, elle était accessible à tout le monde et qu'on pouvait même l'expérimenter soi-même à la maison. J'ai appris à jouer de l'harmonica étant enfant, à l'oreille.
Oui.
N'importe quelle mélodie, je joue de l'harmonica. Il suffit que je connaisse la mélodie, sans connaître la musique. J'ai appris la gamme de Do à l'école primaire. Et je remercie l'école primaire de m'avoir appris la musique. Alors, je ne suis pas un musicien virtuose. Mais à 16 ans, j'ai appris à jouer de la guitare avec une méthode. Et à 75 ans, j'ai appris à jouer de la trompette. Je joue de l'accordéon et je joue du caron. Et tout ça, grâce à des leçons, parce qu'il y a des écoles de musique qui sont accessibles à tout le monde, je me suis fait mon petit chemin. Et je puis vous dire qu'à 76 ans, la musique, pour moi, c'est quasiment la moitié de ma vie. À la guitare, j'ai animé des messes. Dernièrement, avec le caron, j'ai animé une messe, je ne vous dis pas. Ça a été formidable.
Gros succès.
Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la culture, il faut qu'on arrête de penser que c'est une affaire d'élite. On peut déjà découvrir la musique uniquement en prenant un instrument en main, en s'amusant. J'ai des petits-enfants, je les fais jouer avec les instruments, mais ils s'amusent. Ils ne jouent pas d'un instrument, ils s'amusent. Ils commencent par les découvrir, ils font n'importe quoi avec, mais ils se familiarisent. Et déjà, ça leur donne le goût de la musique. Voilà ce que je voulais dire.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Louis pour votre commentaire. Solène, vous m'excusez, je me tourne vers Thierry, le compositeur de musique, parce que je pense que ça vous concerne peut-être un peu plus. Jean-Louis qui nous disait que petit, pour lui, la culture, c'était vraiment une affaire d'élite. Et finalement, il a accédé quand même à la musique, mais par lui-même, peut-être avec quelques cours, mais sans passer par la voie, on va dire, académique. Je trouve ça intéressant. Alors, je vais parler de moi. C'est pas du tout intéressant pour l'émission, mais moi, j'ai appris la musique tout seul, par exemple, en étant autodidacte, et j'ai refusé de prendre des cours de solfège ou d'aller dans une école de musique parce que je ne voulais pas suivre des cours. J'avais déjà l'école d'un côté, je ne voulais pas suivre des cours. Et finalement, j'avais le sentiment quand même, il y avait quelques années, que pour apprendre la musique, il n'y avait que cette solution. C'était vraiment de passer par le conservatoire, le solfège, etc. Et ça peut en dégoûter beaucoup. Thierry, est-ce que vous pensez qu'on peut accéder à la musique sans forcément faire, vous, ce que vous avez fait, c'est-à-dire le conservatoire, vous êtes passé à Berlin également.
Oui, alors je vais dire oui parce qu'en fait, très longtemps, je n'ai pas été au conservatoire. Alors oui. Je suis un cas un peu aussi particulier, donc je suis assez sensible à ce que dit ce monsieur parce que pendant très longtemps, j'ai même pas pensé aller au conservatoire parce que je m'intéressais à la musique contemporaine et à la musique ancienne et j'étais parisien à l'époque quand j'étais enfant et il n'y avait pas de ça dans les musiques, dans les conservatoires. On pratiquait ni la musique baroque à l'époque, ni pas encore, ni la musique contemporaine. Donc pour moi, le conservatoire, c'était pas. Donc les premiers conservatoires où je suis rentré, c'est effectivement Berlin et Paris. Après, quand j'avais moi-même fait mon parcours personnel en prenant des conseils à droite à gauche et en allant en répétition, en allant. Donc en fait, je suis assez sensible à ce que dit ce monsieur. Effectivement, il y a, comme je le disais au départ, il n'y a pas une route pour accéder à la pratique et il faut se créer son propre chemin. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de conseils pour avancer, d'autres beaucoup moins. Avec très peu de conseils, ils arrivent tout de suite à évoluer. Je pense qu'il y a énormément de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui sur Internet arrivent à trouver les conseils dont ils ont besoin. Ça suffit sûrement pas, mais c'est déjà une excellente porte ouverte aussi. Je pense que Voilà, il n'y a pas un chemin pour accéder au bonheur de pratiquer d'un instrument, de créer, de faire partager. Puis ce monsieur, il joue aussi devant des gens. Donc ça aussi,
c'est important. Il partage et il transmet, exactement.
Absolument.
Solène Pradabas, vous avez une devise, un slogan presque pour la Fabrique du Revermont qui m'a beaucoup touché parce que c'est vraiment de circonstance dans cette émission. Pour vous, vous essayez de mettre en avant l'art pour et par tous. Pourquoi ça c'est important pour la Fabrique?
Vous avez organisé il y a un mois à peu près une émission à propos de la culture en milieu rural qui m'a beaucoup parlé sur notamment au niveau des témoignages et des chiffres par rapport à l'offre culturelle en milieu rural alors qu'un tiers des Français y habitent. Et je pense que c'est une très belle illustration à ce slogan, c'est que actuellement on n'a pas forcément accès en milieu rural à autant et à autant de diversité d'offres culturelles et de moyens de participer à la création culturelle qu'en ville. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Nous à la Fabrique et autant avec nos partenaires, on essaye de proposer des alternatives à ce constat-là. Enfin, des réponses, des solutions, je ne sais pas, mais en tout cas des réponses pour l'instant. Et je pense que la première initiative qui me vient en tête, c'est celle de la Voix d'École Porteur. C'est une association culturelle qui est partenaire de la Fabrique et qui est basée également dans le Revermont, sur le même territoire que nous, et qui mêle en fait le peuple à ses œuvres à travers toute l'année d'écriture participative de contes philosophiques qui sont guidés par une personne professionnelle, mais auxquels toute personne de plus de 12 ans peut participer. Et ensuite, les personnes participent au balisage d'un sentier, donc ça c'est vraiment physique, géographique, et ensuite à l'animation du parcours sur plusieurs jours de festival itinérant sur plusieurs communes la dernière semaine d'août. Et ça, bah, pour le coup, c'est vraiment, selon moi, un choix, une initiative politique, en fait, de réponse au constat assez désolant de l'accès à la culture en milieu rural parfois. Et voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous, parce que tout le monde devrait avoir le choix, en fait, de participer ou non, à l'échelle qu'il le souhaite, aux œuvres culturelles. Et voilà, on essaye, nous, à notre échelle, de faire notre part, d'éviter que les personnes vivant dans notre village ou dans les communes environnantes aient toujours à devoir aller à Bourg-en-Bresse, à Ambérieu ou dans d'autres grandes villes pour y avoir accès et puissent le faire plus proche de chez soi. Et aussi responsabiliser les personnes qui savent créer, qui souhaitent, à travers une pédagogie, proposer autour d'elles et eux leur art. Donc voilà, on essaye de permettre ça au sein de la Fabrique.
Oui.
Et on le fait clairement pas seul. Et c'est grâce à des associations et des partenariats, notamment avec la Voix d'École Porteur, mais bien d'autres qui permettent également ça à leur échelle.
Thierry Blondeau, je vais faire un petit lien avec la première partie de l'émission. Je pense donc J'agis qui était vraiment consacré au populisme. On va pas rouvrir le débat, c'est pas l'objectif, mais en quoi la culture et même l'art, hein, peut-être vraiment une réponse à la fermeture de l'esprit, je mets cette expression entre guillemets, que peut représenter le populisme, d'après vous, Thierry Blondeau?
Alors, peut-être déjà le terme populisme,
oui,
qui, au fond, si on y réfléchit bien, n'est plutôt édulcoré par rapport à la réalité qu'il recouvre actuellement. Parce qu'au fond, le populisme en soi, ça a même été un mouvement littéraire, et c'était plutôt un mouvement qui, précisément, refusait l'élitisme. Et c'est entre autres Bernard Clavel ou d'autres écrivains de cette nature donc qui se revendiquaient du populisme. Donc le terme lui-même, et je crois que ça a été évoqué dans les personnes qui passaient avant, est un petit peu est un peu positif par rapport à la réalité politique qu'il recouvre. Mais comme je le disais en début d'émission, c'est plus l'aspect de privation de liberté, d'autoritarisme politique qui pose problème pour les artistes de tout temps, parce que en fond, ça met en avant le fait que le peuple, ça n'est pas une seule chose unie, et enfin unie sans doute, mais en tout cas pas homogène. C'est-à-dire que c'est quand même, ce sont des individus qui existent en tant que tels, qui ont des goûts, des pratiques, des tendances tout à fait différentes. Et cette pluralité, c'est cette pluralité qui pose problème et qui pose conflit entre une politique qui voudrait voir le peuple comme une, vous savez, les nazis disaient ein Reich, ein Volk, ein Führer, un Reich, enfin un territoire, un peuple et un guide. Voilà. Donc tout ça, c'était une seule chose, hein, voilà, qui devait. Je pense que c'est quand même assez symptomatique de cette pensée qui veut que ce qu'on ait en face, c'est un peuple qui pense la même chose et qui va dans le même sens. Alors il y a beaucoup de médias qui porte vers ça, qui essaye effectivement de manière très généraliste et très regardée, et même
on les a évoqués,
maintenant y compris,
ouais, tout à fait.
Voilà, oui, qui effectivement essaye de pousser vers une sorte de bah, on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure, cette prof de français évoquait ça. Enfin, on était un petit peu agacés récemment, nous en tant qu'intervenants dans le milieu scolaire, que les écoles n'aient pas beaucoup plus d'idées comme sujet que les Jeux Olympiques, ce qui est très très intéressant, hein, les Jeux Olympiques, mais c'était quasiment généralisé partout, toutes les écoles avaient comme sujet les Jeux Olympiques. Alors en tant que musicien, nous, ça nous posait pas vraiment, ça nous inspirait pas spécialement. Voilà, donc c'est aussi cette espèce de mainstream, cette espèce de mouvement contre lequel il est parfois difficile d'affirmer à nouveau que nous ne sommes pas tous pareils, que nous sommes tous différents, et que quand des artistes s'expriment, eh ben ils s'expriment de manière différente. Voilà.
Est-ce que c'est le rôle de l'artiste, par contre, de faire ça, c'est-à-dire de, on parlait de populisme, d'aller contre le populisme de par son œuvre, son parcours également. Est-ce que l'artiste a un vrai rôle à jouer, peut-être un rôle politique, ou c'est pas l'artiste de faire ça?
Alors c'est une question cruciale. Moi j'ai pensé longtemps pendant mes études, vous me demandiez si j'avais évolué, bah sur ce point oui, tout à fait. Je pensais que la seule chose qui m'apportait c'était la musique, le reste mes idées politiques, j'avais pas à les exprimer en matière de. Et en fait, je me suis rendu compte que créer, je pense que Solène pourra peut-être aussi en parler, enfin tout ce qui touche à l'art est un acte politique, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, comme je le disais, c'est quand même l'affirmation de soi en tant qu'individu. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec, dans une intervention que je faisais dans une résidence de compositeur, dans une banlieue d'une grande ville française. Et il y avait un groupe de jeunes collégiens et notamment quelques rappeurs qui étaient là, et c'était très intéressant. Ils avaient une pratique tout à fait remarquable. Et puis, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, je lui ai dit, maintenant, on va faire votre musique, la musique que vous portez en soi. Et le petit rappeur me dit, ah mais moi si je fais la musique que j'ai envie de faire, je pense que les autres ils vont pas aimer. Ben, je lui dis, écoute, fais-la quand même, on verra bien s'ils l'aiment ou pas, mais surtout fais-la puisque tu portes quelque chose que tu oses pas dire. Et là l'écoute, le regard des autres est parfois difficile à c'est un pas à faire, précisément à s'affirmer en tant que tel. Je pense que tous les gens qui ont affaire avec la pédagogie le savent très bien. Quand on se présente devant un groupe d'individus, s'affirmer en tant que personne, et surtout s'il s'agit de chanter ou de produire de la musique ou de produire une œuvre quelle qu'elle soit, ou même simplement montrer ce qu'on a envie de montrer, cette affirmation-là, elle demande quand même de... on se met un peu à nu tout de même quand on est créateur ou créatrice, hein. Donc c'est quelque chose de... C'est un pas qui n'est pas toujours facile à faire, et c'est peut-être à nous, pédagogues et artistes, de les accompagner dans ce parcours, et d'oser exprimer ce que l'on fait, même si ça ne plaît pas. Et je peux dire tout de même, j'ai bien conscience que la musique, par exemple, que je produis, n'est pas une musique qui parle à tout le monde immédiatement, bien sûr. Mais je vais vous donner un exemple, puis après je laisserai la parole à Solène tout de même. Un intervenant qui était formé chez nous, intervenait dans une classe de CM1 et a fait écouter le marteau sans maître de Pierre Boulez. Je me suis dit quand même, t'es bien gonflé.
Ah oui, pardon, c'est
audacieux. Hein. Ouais. Et il fait écouter ça aux élèves, et moi-même, j'avais des doutes là-dessus. Il fait écouter ça, et puis il demande après aux élèves, qu'est-ce que vous pensez? Et il y a une petite qui dit, c'est une musique libre.
Oui, mais ça veut rien.
Et je me suis dit, c'est, ouais, j'aurais pas trouvé le mot, mais effectivement, et on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bah, c'est une musique qui respecte pas toutes les règles que j'ai apprises, et voilà. Ah ouais. Mais pas un moment, ils ont dit, c'est moche, c'est horrible, affreux, je ferme les oreilles.
Bah, ce qu'on voilà. a tendance à faire adulte, hein, je trouve.
Bien sûr.
À tout commenter. Plus,
bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Nous avons, mais c'est, je veux dire, c'est un peu normal. Je n'aime pas non plus tout ce que je mange. Ouais. Enfin, tout ce que j'ai aussi des choix alimentaires aussi, et on a tous effectivement un goût. Après, l'immédiateté de la réception d'une œuvre ou de quelque chose qu'on vous propose, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un.
Ouais, mais ça s'apprend.
Ça demande aussi du temps.
Ce que vous dites,
voilà, ça demande du temps.
Thierry Bondeau, voilà. et bien sûr, peut-être que c'est une évidence pour nous, mais c'est pas du tout une évidence de justement de prendre le temps d'écouter ou de regarder. Hein, c'est valable pour tout l'art, mais de ne pas réagir en mode je like ou je like pas, comme on fait très facilement sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir discerner, se dire bah peut-être que ce n'est pas mon goût, mais et puis là ensuite on peut commenter. Et je pense que ça, c'est une vraie éducation à avoir, Solène. Ça vous a fait réagir, je crois, hein, ce que Thierry nous a dit.
Oui, plusieurs choses. Mais en effet, le fait de, notamment avec les enfants, lorsqu'ils et elles produisent des œuvres d'art, que ce soit de la peinture ou de la musique ou autre chose, de pas forcément donner son avis. En fait, ils ne demandent pas sur le fait que l'on aime ou on n'aime pas. Mais pourquoi pas partir sur la description et lui poser des questions. Pourquoi avoir choisi ces couleurs-là? Pourquoi cette technique-là? Pourquoi cet instrument? Pourquoi cette tonalité? Enfin, en fait, il y a plein de questions qui vont pousser l'enfant, ou pas l'enfant d'ailleurs, toute personne compositrice ou dans l'expression artistique, de réfléchir à ses choix de création. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Après, très rapidement, sur le populisme dont on parlait tout à l'heure, je vais pas m'atteler à la question de est-ce que l'art répond au populisme ou autre, mais c'était intéressant, l'un de vos intervenants tout à l'heure parlait de populisme de protection. Oui. Et en fait, c'est intéressant, protection de quoi et protection de qui? C'est vrai que dans les domaines de l'éducation populaire et puis de la culture populaire, qui sont vraiment intrinsèquement liés, on ne ressent pas forcément le besoin de se protéger de qui que ce soit. Au contraire, on a plutôt tendance à se nourrir de chacun chacune, chose qui c'est dur, notamment en collectif, de faire de la création artistique, de se laisser de la place à chacun et chacune pour nos corps, pour nos expressions. On est chacun et chacune unique dans comment est-ce qu'on va faire art, et du coup de partir sur la création à plusieurs là-dessus, ça, ouais, selon moi, c'est politique. Après, réponse au populisme ou pas, c'est un autre débat.
Thierry, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que je vais en profiter pour répondre à la question, est-ce que c'est le rôle des artistes de le faire? Je pense qu'on ne le fait pas volontairement, mais déjà en s'exprimant individuellement et en s'exprimant en osant son expression personnelle, on fait un acte politique et justement qui affirme que nous sommes tous différents, et donc on va contre la démagogie politique,
oui,
évidemment.
Mais il y a une différence entre peut-être affirmer sa personnalité par la musique, par l'art, et commenter à tout va les situations, l'actualité, la politique. Je prends l'exemple en ce moment où on invite et on oblige presque les artistes à commenter le conflit Israël-Hamas en faisant des posts sur les réseaux sociaux, voire à les boycotter si jamais ils prennent pas position. On en arrive là quand même. Est-ce que c'est le rôle d'un rappeur ou d'un chanteur, d'un groupe de rock, d'aller mettre une publication pour commenter, pour faire plaisir aux fans? Ou alors il y a un moment, il faut que ça s'arrête et que les artistes, on leur demande juste de chanter et faire de la musique et pas de prendre position sur des sujets. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, très clairement. D'abord, le monde, on vit un monde très complexe, et donner des réponses simples avec un tweet, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Effectivement, c'est oser la complexité aussi, hein, qui est important. On parlait d'élitisme. On vit un monde complexe, donc forcément, l'accès à la pensée, à l'art, demande quand même un effort. Il y a cette notion-là aussi. Ça vient pas. On peut aussi tous consommer. On a bien sûr aussi des œuvres faciles qu'on consomme. Enfin, moi-même, j'aime beaucoup la bande dessinée. Enfin, voilà, il y a des bandes dessinées de très haut niveau. Mais voilà, je ne suis pas non plus tout le temps dans l'approche d'un art élitiste ou soi-disant élitiste. Mais l'élitisme, finalement, c'est le peuple qui décide si c'est pour l'élite ou pas. Combien de gens n'osent pas aller à l'opéra parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux? Combien de gens n'osent pas aller au concert ou dans une exposition parce qu'ils pensent tout simplement que c'est pas ouvert au public?
Ou trop cher.
Il y a la question du coût.
Voilà. Oui, bien sûr. Aussi. Ce qui est d'ailleurs souvent vrai, d'ailleurs. Pas toujours, mais c'est souvent vrai. Voilà. Donc il y a aussi une auto-censure de la part de certains publics. Et là, beaucoup de festivals, beaucoup de d'institutions essayent de travailler contre ça en ce moment. Après, si on y arrive, c'est toujours une autre question. Mais en tout cas, effectivement, le cas du... Enfin, le prix est effectivement un souci évident.
Mais sans...
D'où l'importance, pardonnez-moi, d'où l'importance du soutien de la collectivité, de la politique par rapport à cet accès-là.
Solène Pradapas, les dimanches de la Fabrique, c'est le festival qui va avoir lieu cet été à la Fabrique de Revermont. Qui peut participer, comment et à quel prix?
On espère pouvoir dire que absolument tout le monde peut participer. On espère que les personnes s'y sentent invitées. Il y a différentes manières de participer. Tout d'abord en tant que public, aussi en tant qu'artiste, en tant qu'artisan, en tant qu'exposant et aussi en tant que bénévole. Et pourquoi pas en tant que financeur également. Notre budget n'est pas encore bouclé, donc s'il y a des entreprises, des fondations ou autres personnes qui souhaitent cofinancer le projet, c'est toujours possible. Et par rapport aux artistes, donc comme je vous disais tout à l'heure, la programmation a été choisie par le public.
Oui.
Mais on aimerait pour la première fois pour cette édition 2024 ouvrir aussi un espace pour les exposants, des personnes qui souhaiteraient, artistes, associations ou autres, parler de ce qu'elles font. Pourquoi pas exposer leur art, pourquoi pas le vendre également si elles le souhaitent, ou parler de voilà leurs activités si elles sont une association du coin. Donc voilà, ça c'est tout à fait toujours possible. Et ensuite participer aussi en tant que bénévole. On donne différentes places aux personnes qui souhaitent mettre la main à la pâte pendant et après le festival. Et voilà. Et après, par rapport au coût du festival, ça nous est paru un peu comme une évidence de proposer le festival à prix libre et conscient. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prix fixe d'entrée ou d'accès aux événements. On donne la responsabilité à chacun et chacune, c'est ce qu'on appelle les spectacles au chapeau, de participer au montant qu'elle le souhaite à ce festival-là. C'est-à-dire que nous, en amont, on a fait beaucoup de demandes de subventions, notamment, dont on dépend énormément. C'est une réalité du monde associatif et notamment du monde culturel et des festivals. Donc ça nous permet d'assurer une partie du festival. Et ensuite, le public peut, en fonction de voilà, sa situation socio-économique, de son rapport, de si elle a apprécié ou non les spectacles, participer à son échelle. Et par rapport à ça, voilà, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre plus et qui, du coup, se responsabilisent sur le fait de s'y payer pour quelqu'un d'autre, et d'autres qui vont venir entièrement, rémunérer, et surtout le festival, et c'est totalement OK. En fait, on n'a pas d'attente, on n'a pas... et c'est chacune qui choisit.
Peut-être un mot avant d'accueillir notre chroniqueuse sur la programmation. Est-ce que vous avez des noms à nous dévoiler ce matin en avant-première?
Oui, absolument.
Oui.
Malheureusement, ce ne sera pas en avant-première, parce qu'on l'a dévoilé la semaine dernière aux bénévoles justement du festival, mais ce sera la première communication. On a 5 dimanches et 2 ou 3 spectacles par dimanche. On a Rimé, qui est un rappeur basé à Bourg-en-Bresse. On a la compagnie Belle Dame qui va nous proposer un spectacle de cirque et mobilette. On a le groupe d'école porteurs de rêve qui va clôturer le festival avec un concert d'art de rue et un bal populaire. Et ça, vraiment, je pense que ça va être assez magique pour finir l'édition 2024. Et tout ça, ce sera à retrouver sur notre page Facebook de la Fabrique du Revermont et sur notre site internet.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Solène, pour cette programmation. Thierry et Solène, l'émission n'est pas encore finie, puisqu'on va écouter notre chroniqueuse tout de suite. Et c'est très bien, puisqu'on va rester dans le monde de l'art. Et nous retrouvons Marion Denis du think tank Vers le Haut. Bonjour, Marion.
Bonjour, Melchior. Bonjour à tous.
Vous nous parlez d'éducation artistique et culturelle, ça tombe bien.
Oui, je vous le dis souvent, l'éducation artistique et culturelle joue un rôle fondamental dans le développement des enfants, leur offrant des outils précieux pour naviguer dans le monde avec confiance, sensibilité et esprit critique. Les activités artistiques permettent aux enfants d'explorer leur imagination, de s'exprimer. Elles encouragent la pensée divergente, essentielle pour la résolution de problèmes, la participation à des projets artistiques, que ce soit le théâtre, la musique ou les arts plastiques. Permet aux enfants de se découvrir et d'apprécier leurs propres talents. Le succès dans ces domaines renforce leur estime de soi. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation artistique, surtout dans les familles les plus vulnérables.
Alors, comment garantir l'accès de tous les enfants à l'éducation artistique et culturelle?
Alors, vous le garantir à ce stade, je ne peux pas, mais je peux vous présenter une association qui œuvre chaque jour pour que tous les enfants aient accès à l'éducation artistique et culturelle. Le réseau Montmartre, une association qui a été créée en 2001, dont l'objectif principal est de proposer des solutions de garde et d'accompagnement éducatif. Alors, le réseau Montmartre intervient dans les quartiers populaires à forte mixité sociale avec une grande concentration de familles en difficulté, avec des artistes professionnels. Le réseau Montmartre déploie une pédagogie par les arts en mode projet qui met les enfants en capacité d'agir. Et alors, le réseau Montmartre conçoit ses modalités d'accueil après l'école pour s'adapter aux contraintes horaires et financières de toutes les familles. Elle favorise la rencontre entre les familles et les habitants d'un quartier pour tisser du lien social.
Et le réseau Montmartre travaille donc avec des artistes, comme vous l'avez dit. Comment ça se passe concrètement?
Alors oui, tout à fait, le réseau Montmartre a un grand réseau d'artistes animateurs. Il propose un mode de garde complet pour les 4 à 11 ans, de la sortie de l'école jusqu'à 19h30, les mercredis et même les vacances scolaires. Ils font des sorties, des goûters, de l'aide aux devoirs et aussi des ateliers artistiques. Montmartre contribue également au développement des compétences des professionnels de l'enfance et de la culture grâce à son organisme de formation. Et alors, dans le but de démocratiser la pratique artistique, le réseau Montmartre s'engage dans les écoles, les crèches, les collectivités, les entreprises, les lieux culturels et même l'espace public. Il propose en fait des ateliers artistiques qui encouragent la créativité et le vivre ensemble. Et donc, chez Verléo, l'éducation artistique et culturelle est un sujet que nous abordons régulièrement. Et nous avions même sorti un rapport, l'éducation tout un art, où nous proposions des idées et actions pour développer les pratiques artistiques et culturelles dans l'éducation.
Merci beaucoup Marion Denis, c'était très intéressant et complètement lié à notre émission du jour.
Merci.
Thierry Blondeau, très concrètement, ça pourrait vous intéresser de travailler avec ce réseau Montmartre?
Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir que les artistes que nous formons, entre autres à l'Université de Strasbourg, dans le cadre du centre de formation des musiciens et musiciennes intervenantes, interviennent sur tous les secteurs d'un territoire, et donc aussi le secteur associatif, bien sûr. Il est rare que les personnes qui sortent des études de chez nous n'interviennent que dans le milieu scolaire. Ils interviennent effectivement, puisque le lien qui est à faire, c'est précisément entre l'école et puis le territoire sous toutes ses formes, et donc aussi intervenir, bien sûr, dans les territoires aussi qui ne sont pas forcément les plus favorisés au niveau de l'accès à la culture. Et je dirais même que ce
Oui.
qui est surprenant, c'est que beaucoup des gens qui sortent de chez nous s'intéressent précisément à ces publics, et peut-être plus qu'aux publics qui sont déjà très formés.
Eh
Et
ben merci
aussi,
beaucoup.
je pense aussi
Oui.
au milieu du handicap, aussi à
Oui.
d'autres milieux aussi qui sont, enfin, on n'aura pas le temps d'en
On
parler là,
pourrait
mais.
en reparler avec plaisir. Mais merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était très
Merci à vous pour
intéressant. Thierry
l'invitation.
Blondeau, compositeur de musique, on peut se rendre sur votre site internet thierryblondeau.com. Merci à l'équipe de Strasbourg qui vous accueillait. Merci Solène Pradapaz également pour votre
Avec
participation.
plaisir.
Animatrice de la Fabrique du Revermont. Rendez-vous sur le site mrjc.org. On pourrait peut-être trouver le lien. Sinon, c'est plus simple sur votre page Facebook. En effet, il y a toute votre actualité à la Fabrique du Revermont. Merci à Antoine, également à Alice et Catherine et Pierre à la réalisation. On va se retrouver pas demain. Demain, deux émissions spéciales que vous allez entendre avec Étienne Pépin et Pierre Dubois. Mais nous, on se retrouve vendredi. Bonne journée à tous.